explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Petit, il rêvait de contrées reculées, plongées dans les atlas, il s'imaginait voguer sur des mers lointaines, arpenter des territoires inconnus, remonter les fleuves qui les traversent. Devenu grand, il est passé à l'action et a fait de ses rêves d'ailleurs une réalité. Ce petit garçon qui a grandi, vous le connaissez, il s'appelle Éric Orsenna. Écrivain, académicien, il a passé une bonne partie de sa vie à sillonner le monde. L'un des fils conducteurs de ses nombreux voyages est l'eau, et plus particulièrement les fleuves. Pour Éric Orsenna, les fleuves sont des royaumes et pas seulement de poissons. Y séjournent des légendes, s'y créent des religions, s'y développent des civilisations. Chaque fleuve est un récit. Le Gange raconte l'Inde, comme le Nil dit l'Égypte, tout comme le Mississippi chante le sud des États-Unis. Ces pérégrinations l'ont conduit à s'interroger sur l'avenir des fleuves de notre planète, sur la façon dont nous les traitons et sur les conséquences pour nous, aujourd'hui et demain. Alors il a enquêté, rencontré, son intérêt et disons-le, son amour pour les fleuves irrigue nombre de ses livres, certains de ses romans et plusieurs de ses essais comme L'avenir de l'eau ou La terre à soif publié chez Fayard, plus récemment Ces fleuves qui coulent en nous chez Julliard et prochainement paraîtra Adopte ta rivière, un conte pour enfants pédagogique aux éditions L'Iconoclaste. Cet après-midi, Éric Orsenna, le plus baroudeur de nos académiciens, nous en mène voguer sur les eaux tumultueuses des fleuves du monde. Louise Cognard a préparé cette émission, David Leprince la réalise, avec à la technique aujourd'hui Loïs Moreau. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Là, on est vraiment dans un site, dans un paysage terre-mer, où la terre et la mer sont imbriquées. Vous voyez, la marée est basse, enfin la mer monte. Hein. On se sent bien dans une campagne littorale, parce qu'on entend peu actuellement les oiseaux de mer, et on entend davantage en fait les passereaux, les oiseaux de la campagne. Et je crois que c'est parce que la mer monte, et quand la mer monte, si vous voulez, bien le garde-manger de la grève n'est plus là pour les oiseaux marins. La brume s'évapore un petit peu, hein, elle se dissipe. Et puis, vous voyez, au sud, on a la petite île, l'îlot de Castellard, l'embouchure du Trieux. Au fond, se détache dans la brume la pointe de l'Arc-Ouest, les îles de Bréa, le phare de la Croix, hein, qui donne l'alignement pour rentrer dans le Trieux.
Bonjour Éric Orsenna.
Mais bonjour Daniel Fievé.
Alors nous commençons notre bivouac le long d'une rivière et dans un lieu que vous connaissez très bien, le Trieux. Alors c'est même un fleuve, je dis une rivière, mais c'est un petit fleuve.
C'est un petit fleuve parce qu'il y a une différence dans la langue française entre les fleuves qui vont à la mer et puis les rivières qui vont au fleuve. Ouais. Et moi je préfère au fond pour une fois la langue anglaise qui ne discerne pas et qui appelle ça des « rivers ». Et donc là, le petit fleuve, imaginez, c'est un fleuve de 72 km. Alors comparé à 6500 de l'Amazone, il est grotesque, mais c'est quand même un fleuve. Ouais. Donc c'est un fleuve, c'est-à-dire qu'il est à la fois doux et salé.
Ouais. Bah oui, il est juste au bord de la mer, donc il y a des interactions avec la mer.
Des interactions, d'autant plus que nous sommes dans un endroit de Bretagne Nord à qui vraiment je dois tout. Et oui. Nous sommes dans un des endroits où les marées sont les plus importantes, puisque entre marée haute et marée basse, il y a quasi 10 mètres d'écart. Alors les gens qui ne connaissent pas, quand ils viennent chez nous, ils disent « mais quand est-ce qu'elle remonte ?» Les gens de la Méditerranée sont perdus, oui. Comprenez, parce que nous, la Méditerranée, c'est pas une mer, c'est un lac, quoi.
Ah oui, bah vous allez vous faire des amis avec...
Non, mais ça... je l'adore, elle est belle comme tout, oui. Mais moi j'ai été appelé dans ce mouvement.
Ben bien sûr, et si on a commencé avec ce petit fleuve, vous avez dit, il paye pas de mine, hein, il est ridicule, mais pour vous, il est immense, c'est votre premier amour, ce fleuve, c'est là. Alors, que tout commence.
C'est là, c'est cette alliance entre l'eau douce et l'eau salée, ouais. Entre la mer et la rivière. C'est aussi le lieu des légendes. légende incroyable, puisque c'est un lieu où, au 5e et 6e siècle, des saints hommes sont venus d'Irlande pour retrouver une sorte de vérité. Donc il y avait des ermitages quasiment sur chacun des petits cailloux. Ouais.
Et puis vous, petit, vous pêchiez, vous barouilliez, vous naviguiez.
Naviguais avec mon père qui m'a appris à faire de la voile très très tôt. Mmh. C'est-à-dire que on avait un test dans la famille, il fallait qu'on sache nager.
Ah oui.
Donc toute la famille nous regardait, savoir si on savait nager. Si on savait nager, on avait le droit d'aller en bateau. Donc j'étais seul sur un petit bateau à voile à l'âge de 8 ans.
Oui.
Et c'est d'ailleurs en même temps, à l'âge de 8 ans, où je me suis rendu compte que j'avais deux choses dans la vie, c'est-à-dire écrire et naviguer.
Oui.
Et en fait, c'est pareil, parce que sur la mer ou sur la rivière, comme sur la page blanche, il n'y a pas de route. Il faut l'inventer.
Eh oui.
Eh ouais.
Eh oui. Mais le voyage, d'ailleurs, pour vous, il commence dans les livres. C'est-à-dire qu'avant de prendre la mer, vous avez commencé à feuilleter les atlas, les albums de Tintin aussi. Hein. C'est ça qui
Tintin.
Vous a donné l'envie de partir.
Tintin et Tournesol. Moi, je rêvais ma vie, c'est d'être à la fois Tintin et Tournesol, avec un ami comme le capitaine Haddock et quelques dames plus intéressantes que la Castafiore.
Bon, ben voilà, ça faisait un programme.
Le programme était lancé.
Le programme était lancé. Et il y a toujours eu ce goût pour les fleuves, pour les rivières, pour les cours d'eau. Vous dites que partout où vous allez, s'il y a un pont, s'il y a une berge, vous allez jeter un œil, vous avez besoin de voir l'eau qui irrigue ces territoires ou même ces villes quand vous vous rendez en ville.
Alors regardez la différence entre une ville où il y a un fleuve qui est accepté. Regardez, la plupart des villes ont redonné de la vie au fleuve qui les traverse. Mmh. Il y en a quelques-unes, genre Bruxelles, qui ont mis une sorte, c'est devenu un tunnel.
Ouais.
Ça n'a pas de sens. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ma formation, je suis économiste,
ouais,
économiste des matières premières. Et donc, parmi les matières premières, la première, c'est l'eau. Très bien. Mais l'eau, c'est un peu abstrait. C'est nécessaire et général, c'est un peu abstrait. Alors que chaque petite rivière, chaque fleuve est un être vivant.
Ouais. C'est un personnage vivant, avec une personnalité. Alors pour vous, le fleuve, c'est la vie. Le fleuve, c'est un chemin. Le fleuve, c'est une force aussi, parce qu'effectivement, ça anime les moulins, les turbines. Et effectivement, c'est aussi le temps qui passe et c'est l'histoire qu'il raconte. On peut jouer un peu à ça. Pour vous, le Gange, qu'est-ce qu'il raconte, Gange ?
Le Gange, d'abord, il descend du Tibet. Il faut savoir qu'il y a deux choses qu'il faut savoir toutes simples. Un, il y a la même quantité d'eau depuis le début de la Terre. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait que du recyclage.
Oui.
Au lieu d'avoir 1 milliard d'êtres humains, on en a 8 ou 9. Donc, premièrement, la question du partage, on va y revenir.
Mmh.
Et le deuxième chiffre qui m'a fasciné, c'est à 200 ou 300 millions d'êtres humains près, la moitié de la population mondiale dépend d'un fleuve, donc des glaciers qui sont au Tibet. Mmh. Vous imaginez ? Alors, le Gange, évidemment, est un enfant du Tibet. Et puis, il a, évidemment, puisque c'était dans la mythologie, c'était des pluies qui descendaient comme ça. Et donc, pour que ça ne frappe pas trop la terre, ça passait par les cheveux de Shiva.
Ah oui.
Vous voyez ? Alors, moi, en tant que chauve, je suis absolument nostalgique de ne pas avoir des cheveux tels qu'ils aient pu donner naissance à des fleuves.
Mmh.
Et puis, on arrive à ce moment-là dans un delta. C'est le delta commun du Gange et du Brahmapoutre.
Mmh.
Et donc, moi, je suis passionné par les deltas,
ouais,
et très inquiet, puisque 600 millions d'êtres humains habitent les deltas.
On aura l'occasion d'y revenir. Allez, un autre fleuve, on change de continent. Le Mississippi, pour vous, le Mississippi, il raconte quoi ?
Ah bah, le Mississippi, c'est évidemment la musique.
Ouais.
Puis pourquoi ? Parce que le Mississippi est l'endroit où, grâce à l'eau du Mississippi, on faisait du coton.
Ouais.
Un coton irrigué. Coton dit esclavage. Esclavage dit le blues.
Mmh.
Et donc, je suis en train de travailler, d'ailleurs, à l'origine du blues. Et il y a un documentaire formidable,
oui,
de Martin Scorsese, l'immense de cinéma,
oui, réalisateur.
Réalisateur, qui a fait un livre sur le lien entre le Mali et le Mississippi.
Oui.
C'est-à-dire, où est la source du blues ?
Oui.
Et quelque chose me dit que c'est au Mali.
Bon, on aura aussi l'occasion de retourner au Mali, c'est promis. On reprend un fleuve plus proche de chez nous, le Danube. Danube qui quand même alors traverse 18 pays. Hein. C'est-à-dire que les fleuves se jouent totalement des frontières, hein, Eric Orsenna.
Ah bah, complètement, surtout le Danube, parce que le Danube, c'est évidemment la forêt noire d'un côté. Ça va jusque au fond en Roumanie, c'est-à-dire qu'on est juste à côté de l'Ukraine. Et d'ailleurs, c'est vraiment juste la frontière et le delta du Danube absolument formidable. Et c'est l'éclatement de l'Europe. Mmh. C'est vraiment l'éclatement vivant de l'Europe. Et donc, et puis, évidemment, là, c'est moins les religions. Enfin, c'est la musique.
Ouais.
Beau Danube bleu, bien sûr.
Et oui.
C'est évidemment Vienne.
Et oui.
C'est évidemment Vienne. Parce que le fleuve, c'est à la fois le miroir de nos sociétés et en même temps le reflet de nos rêves. Et donc, c'est évidemment l'allégorie de la musique.
Ouais. C'est intéressant, cette idée du miroir. Hein. Vous le dites, l'eau, on peut se regarder dedans, mais pas pour se regarder notre visage, mais regarder ce que l'on fait, notre rapport au monde, notre rapport à la nature, c'est un miroir. C'est
tout qui coule dans les fleurs. Dis-moi, comment tu respectes l'eau?
Ouais.
Comment tu, entre guillemets, la produis?
Ouais.
Si tu la recycles ou non? Au bénéfice de qui? À quel prix? En pensant à long terme ou non, je te dirai exactement à quelle société tu es. Est-ce que c'est une société de domination? Est-ce que c'est une société vraiment démocratique? Est-ce que c'est une société respectueuse? Etc, etc. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai tellement fou de ça.
Et oui, mais on le sent hein, que vous êtes passionné.
Ah bah, moi,
allez, un dernier fleuve et avec une idée derrière, le Jourdain.
Alors le Jourdain, on est au cœur des questions actuelles de la déchirure, parce que évidemment le Jourdain est dans une région particulièrement sèche, où il y a des guerres de territoire, on le voit bien.
Mmh.
Alors se pose évidemment la question d'Israël, parce que s'il n'y a pas de Jourdain, il n'y a quasiment pas d'Israël. Et on voit la situation actuelle. J'ai deux convictions sur ce dossier extrêmement compliqué, extrêmement douloureux, extrêmement cruel. Un, la survie d'Israël ne sera garantie qu'à terme que s'il y a deux États. C'est ce que déjà disait François Mitterrand à la Knesset en 82.
Vous avez écrit des discours, vous avez côtoyé, travaillé avec Mitterrand,
alors,
donc vous savez de quoi
ça,
vous parlez.
Ça. 43 ans déjà.
Ouais.
Combien de morts, combien d'enfants morts et d'autres, de toutes sortes de gens on aurait si on avait cette évidence-là. Donc c'est le premier point, deux États. On partage la terre comme on partage l'eau. Et le deuxième point, c'est la survie du droit. Moi, je suis conseiller d'État, j'étais conseiller d'État 25 ans. Le fondement du droit, c'est le traitement égal de chacun des gens qui sont dans une communauté. Et donc, s'il y a deux poids, deux mesures, le droit n'a aucun sens. Et ce qu'on est en train de se voir, parce qu'on, à juste titre, on crie quand il y a des drones russes sur l'Ukraine, mais quand il y a 50, 60 morts tous les jours dans la bande de Gaza, on dit rien, c'est pas possible.
Vous teniez à réagir justement à cette annonce du président de la République faite hier soir, la France va reconnaître l'État de Palestine
avec un soutien à Israël.
Oui.
La garantie de la survie d'Israël et notamment la libération enfin des otages qui restent vivants, ça serait grâce à deux États.
Alors cette question importante a fait l'objet du grand entretien de la matinale ce matin. Elle sera évidemment traitée comme il se doit par la rédaction de France Inter dans les prochaines émissions consacrées à l'actualité. On remonte sur notre barque pour nous intéresser aux fleuves du monde qui, eux aussi, nous allons le voir, peuvent poser de sérieuses questions géopolitiques. Vous allez, Eric Orsena, nous raconter ce que vous avez appris en voguant sur les plus grands fleuves de la planète, de l'Amazone au fleuve Niger, en passant par le Brahmapoutre ou le Rhône. Entre émerveillement et inquiétude, nous partons pour un grand voyage au fil des fleuves du monde avec le plus baroudeur des académiciens, l'écrivain Eric Orsena, cet après-midi sur France Inter.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois. C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie.
C'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néant.
C'est la pie qui jacasse, c'est la verse qui verse, des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de mars.
C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent.
C'est la main qui se tend. C'est la pierre qu'on lance.
C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine.
Un reste de racine, c'est un peu solitaire.
C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire.
Une écharde en bleu, c'est la pierre qui monte. C'est un
gens, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le trou du cœur, un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie.
Un quatuor sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Il y avait Nathalie Dessay, Agnès Jaoui, Elena Nouguera et Liat Cohen qui nous chantaient donc Les Eaux de Mars.
Senhoras e senhores, bem-vindos a Manaus. Ladies and gentlemen, welcome to Manaus.
Le ciel est flamboyant, le soleil vient de se coucher et le fleuve Amazon, cet immense fleuve dont on voit à peine l'autre rive, c'est coloré d'orange. Je viens de rejoindre le port où s'agglutinent tous ces bateaux typiques d'Amazonie, ces bateaux en bois ronds sur plusieurs étages où les voyageurs s'apprêtent à partir pour rejoindre les quatre coins de l'Amazonie. Ils vont y passer plusieurs jours, plusieurs nuits. Ils ont tout leur équipement, leur hamac pour dormir, de la nourriture, de l'eau. Et on finit de charger ces bateaux prêts au départ. Ça devrait nous prendre à peu près 9 heures de voyage pour arriver jusqu'à l'entrée de la réserve des Sateré Maoué.
Nous voilà donc arrivés à Manaus, la porte d'entrée de la forêt amazonienne. Ça doit vous rappeler quelques souvenirs, Eric Orsena.
Oui, parce que le frère de mon père, l'année de ma naissance, a décidé de partir pour le Brésil. Il était architecte, et puis il avait travaillé avec Niemeyer, le grand architecte, et puis il était en même temps clarinettiste, il est parti. Et donc il revenait régulièrement. Et il détestait l'avion, donc il venait en bateau. Et à chaque fois qu'il repartait au Havre, il fallait me chercher parce que je me cachais dans le paquebot parce que je voulais partir avec lui.
Ah ouais.
Parce que je trouvais la France intéressante, mes parents adorables, mais je m'ennuyais un peu. Donc déjà, j'avais envie de partir.
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
J'avais 10 ans, 12 ans.
Ouais,
et je me cachais. Quoi. Ouais. Donc j'ai été je ne sais combien de fois au Brésil, qui est mon autre pays, où j'ai plein de familles brésiliennes. Et quand à un moment venu, vous savez, un peu idiot, à 30 ans, vous dites, bon, à 40, j'aurai le concours. Donc je lui dis, quel est le sujet ? Forcément l'Amazone. Ouais. Comme j'étais économiste, j'ai dit, tiens, je vais prendre comme matière première le caoutchouc, mais il faut un lieu. Je suis un peu, j'adore la géographie, ouais. Donc c'est l'Amazone. Ouais. Donc j'étais là-bas.
Ouais. Il est question d'EVA, hein, vous avez dit le caoutchouc,
oui.
D'EVA, de culture d'EVA, d'arbres, et puis de forêts amazoniennes.
Et la forêt pluviale,
oui.
Parce qu'il y a aussi des marais, mais des marais sur l'année. C'est-à-dire qu'il y a des villages qui sont sous l'eau. Sous l'eau douce, ouais. Et qu'on voit ça. Et puis, il y a des dauphins aveugles. Et puis, il y a la confluence. J'entendais ces voix incroyables.
Ouais.
Mais c'est des confluences. Ouais. On a l'impression qu'il y a quatre rivières, les chanteuses qui se mêlaient pour faire ce chant unique.
Ouais.
C'est exactement la même chose. Et là, il y a le Rio Negro et le Rio Solimões qui sont là, juste à la hauteur de Manaus, un petit peu avant, et qui font la forêt. Donc, j'étais complètement fou. Imaginez ce que c'était de rester 2 mois sur la forêt avec des médecins. Parce que les seringueros, ceux qui récoltent le caoutchouc sauvage, ils souffrent de malnutrition, donc de lèpre.
Ouais.
Donc des troubles de vitamines, etc. Donc j'étais avec eux pendant tout le temps.
Ouais.
Donc j'étais comme un fou, ça.
Comme un fou avec, vous le dites, hein, avec ces saisons et parfois ces marées, cette eau qui envahit la forêt. Hein, la forêt se retrouve ennoyée. On appelle ça, quand la forêt est inondée, la forêt de Várzea. Et c'est un spectacle saisissant.
C'est d'une beauté complètement fantasmagorique. On a l'impression de flotter vers l'intérieur de la forêt. Il y a 600 000 km² de forêt inondée en cette saison, Várzea ou Igapó. Ça fait la taille d'un pays européen. Et on a la sensation d'être comme dans un rêve, de planer vers l'intérieur d'un tableau du douanier Rousseau.
Thank you.
L'eau est vraiment très noire ici.
Oui.
Et comment est-ce que les animaux, disons, de terre ferme, les singes, les tapirs, les jaguars, s'adaptent à cette inondation?
Ils ont une sensibilité assez impressionnante.
Ouais.
Le moment que l'eau commence à monter, ils sortent de cette région des gapos vers la terre ferme.
Ah, ils sentent que l'eau va monter.
Voilà.
Donc ils ne se réfugient pas dans les arbres, ils migrent en fait vers une autre région.
Le reporter Alfred de Montesquieu dans le documentaire sur la route des extrêmes. Vous qui aimez que le voyage apporte sa dose d'émerveillement, Eric Orsena, là on y est complètement avec ce bateau qui semble dans le tableau du douanier Rousseau.
C'est à la fois l'émerveillement et le savoir.
Ouais.
C'est le savoir de l'émerveillement. Parce qu'on apprend évidemment des tas de choses. On apprend des histoires, parce que c'est les rêves, c'est Aguirre, et c'est tout ça, c'est tous ces rêves, etc. Et puis on apprend des trucs incroyables.
Ouais.
On apprend sur les animaux, ce qui dit très bien, parce qu'ils sont amphibies. Amphibies, c'est-à-dire des deux côtés, comme ça. Et puis on apprend aussi sur les arbres. Ce que c'est qu'un seul arbre, l'arbre, il pompe, et puis il évapore.
Ouais.
Comme il évapore...
Alors oui, là je sens où vous m'amenez, avec ce lien, avec l'arbre qui fait le pont avec le ciel et justement ces fameuses rivières célestes. Mais à ce sujet, je voudrais vous faire écouter la voix d'un immense photographe qui nous a quittés le 23 mai dernier. Il était l'un de vos amis, hein, Sebastião Salgado, ardent défenseur de la forêt amazonienne et de ses peuples autochtones qui y vivent. Et il avait subtilement photographié l'Amazonie, ses habitants. Et nous l'avions reçu dans le temps d'un bivouac en juin 2021, et il nous avait raconté comment, avec son épouse, il avait replanté des arbres sur sa terre natale, au Brésil, qui avait entièrement été déboisé avant qu'il ne fasse ce plantage d'arbres. Et on va l'écouter nous raconter comment il avait recréé cette gigantesque forêt.
Écoute, on a planté aujourd'hui sur notre espace un peu plus de 3 millions d'arbres. De plus de 300 espèces différentes. On ne plante que des arbres natifs. On est en train de reconstituer un écosystème très semblable à celui qui était détruit. Ouais. Vous savez, c'est la seule manière de ramener la biodiversité. Ce n'est pas n'importe quel arbre qui apporte la biodiversité. Pour apporter la biodiversité, il faut planter des arbres natifs.
Ouais. La biodiversité et l'eau aussi. Quand on plante des arbres, on plante des sources.
On est en train de récupérer les sources d'eau. Vous savez, l'eau n'existe pas dans la terre, n'existe pas dans les montagnes. Elle vient à travers les rivières volantes. Et par la pluie, elle tombe. Si on n'a pas d'arbres, on ne retient pas l'eau au sol. Seulement les arbres qui peuvent retenir l'eau au sol.
Oui, vous avez employé cette expression de rivière volante, c'est-à-dire que en Amazonie, par exemple, il y a plus d'eau charriée par ces rivières volantes, par les nuages qui forment ces rivières volantes, que par le fleuve Amazone, qui est déjà gigantesque.
Voilà. Les volumes d'eau que le fleuve Amazone déverse par jour dans l'océan Atlantique, c'est beaucoup plus petit que les volumes d'eau que les nuages qui quittent l'Amazonie vont à travers le monde. Donc, une partie de l'humidité qu'on a ici, une partie des pluies, viennent aussi de l'Amazonie. On dépend de l'Amazonie aussi pour ça. C'est la source de la planète. Il faut qu'on la tienne n'importe comment, nous tous ensemble. Si on ne se met pas, nous tous ensemble, on perdra l'Amazonie.
Le photographe Sebastião Salgado, décédé en mai dernier. Nous gardons un merveilleux souvenir de son passage dans l'émission, hein, qui est réécoutable sur le site de France Inter, franceinter.fr. Et nous sommes heureux de pouvoir lui rendre hommage à l'occasion de votre venue dans cette émission, Eric Orsena, parce que vous avez eu l'occasion de voyager à ses côtés. C'était un intime, hein, vous le connaissiez très bien, c'était un ami.
C'était plus que ça, parce qu'on avait un livre en cours, un livre sur l'Alliance. Parce qu'il a connu sa femme merveilleuse, Lélia, il l'a connue à l'Alliance française. Et on voulait faire un livre sur le thème de l'Alliance. Donc il avait réuni énormément de photos, l'Alliance entre les hommes et la nature, les hommes et les femmes, les hommes et les enfants, etc. Et moi, j'apportais des textes. J'ai eu l'honneur immense d'introduire son dernier livre sur les oiseaux. Donc c'était... Et donc ce qu'il raconte là est absolument clé.
Ouais.
Et vous savez... Pourquoi il a eu ce projet de replanter ces 3 millions d'arbres?
Ouais.
Parce que ces 3 millions d'arbres, c'est la vie. Pourquoi? Il revenait d'un reportage au Rwanda et il avait vu tellement d'horreurs qu'il a eu un besoin de retrouver contact avec la vie. Mmh. Et c'est grâce à l'Elia qu'il y a eu cette idée. Mmh. Donc les arbres n'ont pas seulement apporté de cette, ces rivières, mais lui ont redonné une sorte de force de vie. Mmh. Je trouve que c'est une des histoires les plus bouleversantes. C'est, et comme il dit très bien, nous sommes un bateau commun, nous sommes un vaisseau spatial, la Terre. Ouais. Et donc, que ça soit au Rwanda ou au Brésil, c'est la même chose. Vous comprenez, c'est ça qui est le plus frappant. Ouais. Et je perds un immense grand frère.
Il parlait de ces rivières volantes, et on n'imagine pas qu'au-dessus de l'Amazone, l'un des plus grands fleuves du monde, flotte dans l'air, au-dessus, un fleuve encore plus important.
Pourquoi ? Parce que l'eau est sans arrêt en métamorphose.
Ouais.
Elle a les trois états, l'état liquide, l'état de vapeur et l'état de glace. Quand on est, grâce à ces arbres, il y a une humidité. Donc l'humidité, elle est transportée par le vent. C'est une double humidité qui vient des arbres et qui vient aussi de l'océan. Mmh. Donc quand vous avez cette sorte d'étang géant au-dessus de l'Amazone et que vous avez un vent du nord, ben ça descend ces rivières célestes. Mmh. Et quand les conditions de température et de pression sont différentes, ça dégringole. S'il n'y a pas cette humidité venant de l'Amazone, il n'y a pas de forêt à São Paulo.
Mais
comprenez, c'est ça, cette affaire-là qu'il faut comprendre, ce lien entre le ciel et la terre. L'eau, c'est le lien.
Oui, c'est le lien, et on comprend que l'arbre est un maillon dans ce cycle. Et si on coupe les arbres, on assèche les rivières du ciel.
Et ça, c'est la merveille de la langue française.
Ouais.
Vous avez mis le doigt sur le double sens du temps.
Ouais.
C'est le temps qui passe et le temps qu'il fait.
Ouais. C'est pour ça que le temps d'un bivouac, c'est un joli titre. Parce qu'évidemment, on a le temps qui passe et on a le temps qui fait quand nous sommes dans ces bivouacs.
Et le feu doux de l'éclairage au milieu de la nuit pour fêter l'amitié.
Oh, c'est joliment dit, exactement. Ce qui est intéressant aussi, Eric Orsenna, quand on vous lit, parce que là, on voit, il y a ces rivières du ciel, vous parlez aussi de rivières maritimes. C'est-à-dire que pour vous, au sein des océans, les courants sont un peu à percevoir comme des fleuves marins.
Alors ça, c'est l'enfance aussi, parce que donc, je suis Bretagne Nord, donc archipel de Bréa, et nos grands-mères nous disaient « Remercie le Gulf Stream, c'est grâce à lui que la mer est si chaude ». Et nous, comme on grelottait à chacun de nos bains, on disait « chaude, 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 moyen ». Donc j'ai eu envie de raconter. C'est le premier livre de vulgarisation que j'ai fait, c'est-à-dire éloge des courants, portrait du Gulf Stream.
Ouais.
Et alors c'est marrant parce que les scientifiques se sont dit « qu'est-ce qu'il vient foutre chez nous ?» Il a le Goncourt, d'accord, mais il n'y connaît rien. C'est vrai, j'y connais rien. Mais je bosse comme un malade, j'interroge les gens, et brutalement ils ont dit « Eric, au fond, il est comme nous
ouais. ».
Il est ses notes, et c'est pour ça que je suis sans arrêt à l'Académie française, mais sans doute celui qui est le plus souvent à l'Académie des sciences.
Ouais.
Et que je suis devenu ambassadeur de Pasteur.
Ben oui, ambassadeur de l'Institut Pasteur. Ben là, en science, on sait qu'on peut vous faire confiance. Avec tous les petits précis de mondialisation, on sait que vous arrivez à parler avec les scientifiques.
C'est grâce à François Jacob.
Ouais.
Pendant 12 ans à l'Académie française, c'était mon voisin. Il m'a dit « Comment oses-tu poser tes fesses sur le fauteuil de Pasteur ?» Alors, j'ose toujours pas, mais je suis passionné.
Voilà, c'est ça. Vous essayez de vous mettre au niveau. Allez, nous poursuivons notre bivouac au fil des fleuves du monde avec vous, Eric Orsenna. Très bel après-midi à l'écoute de France Inter. C'était Neil Young qui chantait « Talking to the Trees » sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Nous sommes en période de basses eaux. C'est en ce moment que les bœufs peuvent traverser. Et n'est-ce pas, à la nage, n'est-ce pas, parce que le courant est peut-être moins fort, parce qu'il y a surtout beaucoup moins d'eau dans le fleuve en ce moment. Sans orgueil ou sans chauvinisme, on peut dire que c'est l'un des plus beaux fleuves du monde. Chaque berge, chaque village qui se découpe dans les rogniers, à l'horizon, sur la berge, chaque campement de pêcheurs, chaque portion du fleuve correspond à une histoire, correspond à un univers que l'on a envie de fixer pour l'éternité.
Tout le monde connaît le Nil. On sait que le Nil est un fleuve féerique, magique. Il en va de même du fleuve Niger, que l'on ne connaît pas bien, que les Africains même ne connaissent pas forcément très bien. Eh bien, il est important que les gens le découvrent, parce qu'à le remonter du sud au nord, on traverse peut-être 1000 ans d'histoire que même l'historiographie n'a pas encore réussi à bien décrire.
La voix de l'écrivain Ismaïla Traoré, auteur malien. C'était un reportage issu de Des Racines et des Ailes, diffusé en 2002 sur France 3. Nous voilà donc arrivés sur le fleuve Niger. Et Eric Orsella, vous le dites hein, à longueur de livres et d'interviews, vous avez un faible tout particulier pour les fleuves d'Afrique et tout particulièrement pour le fleuve Niger. C'est votre fleuve de cœur. Pourquoi celui-là ?
Parce que j'ai beaucoup navigué sur ce fleuve. Navigué sur des paquebots fluviaux qui partent juste comme ça en aval de Bamako et dans un endroit qui est une sorte de port qui s'appelle Koulikoro. Et on prend un bateau où il y a une trentaine, quarantaine de cabines. C'est un village flottant.
Ouais.
Et pendant une semaine de Koulikoro, on remonte jusqu'à Gao. C'est-à-dire le désert, parce que c'est un fleuve complètement fou.
Ouais.
Au lieu d'aller, comme tous les autres fleuves, partir de la source et aller à la mer, lui, il s'affronte au désert.
Ouais.
Alors évidemment, le désert est plus fort que lui, donc il dit d'accord, monsieur le désert, vous êtes plus fort, donc il redescend, et comme ça, il va trouver la mer au Nigeria.
Ouais.
Et donc, c'est une boucle incroyable. Donc, quand vous êtes sur ce bateau, mais vous êtes au milieu du village.
Ouais.
Il y a les femmes qui font la nourriture sur le pont de base, et puis il y a tous les autres, et puis il y a la musique tous les soirs. J'ai imaginé qu'on a fêté avec mon fils, qui avait 15 ans, on a fêté les 15 ans de mon fils là. Mmh. Tout le monde dansait, longue vie à ton fils, etc. C'était dément.
Ouais.
Et il y avait des trucs, par exemple, la clim ne marche pas. Il y avait des ingénieurs chinois, des militaires chinois qui étaient là. Ils disaient, on va le réparer. Ils disaient, non, on ne peut pas, il est gâté. Alors les Chinois, ils sont là. Tout le bateau à côté dit non, moi je ne prendrai pas une clé de douche, je prendrai comme ça. Et puis à la fin, ça marche. Alors il dit, bah, tu vois, il était gâté. Ah oui, avant il était gâté, maintenant il n'est plus gâté.
Ah ben voilà, on se débrouille. Et vous le dites, hein, ce fleuve, en fait, l'Ouest africain doit tout au Niger. C'est-à-dire que c'est toujours vrai, le fleuve, c'est la vie, c'est celui qui irrigue, c'est celui sur lequel on construit les villes. Mais là, particulièrement en Afrique, sans ces fleuves, il n'y a pas de vie.
D'où la nécessité de sauver la forêt qui est la source même de tous les fleuves de l'Ouest africain, c'est-à-dire le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie et le fleuve Niger.
Mmh.
Et là, il se trouve que j'ai créé, grâce à l'appui de la Compagnie Nationale du Rhône, une association, une sorte d'ONG maintenant, Initiative pour l'avenir des grands fleuves.
Ouais.
Et on travaille avec pas mal d'associations, dont l'organisation La Mise en Valeur de la Vallée du Sénégal.
Ouais.
Et donc, j'ai été plusieurs fois en Guinée pour essayer de sauver cette forêt.
Ouais. Parce que ces fleuves, et le fleuve Niger et d'autres, sont menacés. Alors, il y a évidemment les choses contre lesquelles on ne peut rien, hein, le soleil, le sable, mais il y a des responsabilités humaines. Et déjà, la première, ce sont ces arbres que l'on assassine, finalement. Hein.
Comme d'habitude, il y a les arbres qu'on coupe parce qu'on veut étendre les zones de culture. Et puis, comme on multiplie les troupeaux dévastent complètement les têtes de source.
Mmh.
Donc, il y a ce mécanisme-là. Mais on m'a dit un truc, grâce à cette association, j'ai des liens avec tous les scientifiques, on m'a dit, mais tu oublies quelque chose, mon garçon. C'est que c'est vrai que s'il n'y a plus de forêt, et on va se battre tous ensemble, parce que les populations sont très conscientes de tout ça, on va se battre, tu oublies les jet streams qui viennent du Tibet.
Mmh.
C'est-à-dire qu'au mois de mars, il y a une humidité qui monte des glaciers, ceux qui restent au Tibet,
oui.
et qui vont à l'inverse des grands courants, c'est-à-dire qui vont vers l'ouest, et vers le mois de juillet, quand ces flux rencontrent la chaleur qui vient de l'ouest africain, ces vapeurs se changent en précipitations, et on appelle ça la saison des pluies. Mmh. Donc on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure entre les liens entre le Rwanda et puis le Brésil, et là c'est le lien entre le Tibet et l'ouest africain. Mmh. Il faut savoir que l'eau c'est le lien.
Et oui.
C'est le lien.
Tout est lié, et si ces glaciers n'existent plus, ça aura des conséquences sur les pluies
d'où
en Afrique.
Tout ça, on n'est pas les gens qui pensent qu'ils sont seuls comme ça, c'est au sens étymologique religieux. Vous savez, la fin de mon discours d'entrée à l'Académie française, où j'étais quand même le successeur direct de Cousteau, c'était religare, recueillir et relier. Relier. Sans qu'il y ait de transcendance, sans qu'il y ait un dieu barbu ou autre, tout ça. Ah, très bien, pourquoi pas, on n'y croit pas. Mmh. Mais il y a le lien.
Oui.
Et ça, c'est religieux au sens étymologique. Mmh.
Alors, parmi ces grands fleuves africains, il y a aussi le Nil. Expliquez-nous pourquoi des générations d'explorateurs ont eu tant de mal à trouver là où les sources du Nil. Pourquoi y a-t-il un tel mystère autour des sources du Nil ?
Parce que, y a plusieurs raisons, mais la première, c'est que 80% du débit du Nil vient du Nil bleu, qui vient des très hautes montagnes d'Éthiopie. Donc on pensait que ça venait de là. Et puis il y avait un petit courant qui arrivait au Soudan, et on ne savait pas que c'était, de quel lac il venait. En fait, on sait que c'est des lacs comme ça, de la brisure comme ça, de la vallée du Rift et tout ça qui vient. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a découvert vraiment les sources complètes du Nil en même temps qu'on comprenait la circulation complète du sang. Il y a les deux mystères qui sont les mystères de la géographie et les mystères de l'anatomie en même temps.
D'ailleurs, vous le faites ce lien, ce parallèle dans votre dernier ouvrage chez Julliard, ces fleuves qui coulent en nous. Vous faites ce lien entre les flux qui irriguent nos veines et
les réseaux hydrographiques. Vous savez, cette phrase magnifique qui ouvre le livre, ce grand poète Rumi, le poète iranien Rumi, qui dit « Nous ne sommes pas une goutte dans l'océan ». Nous sommes un océan dans une goutte. C'est-à-dire que soi-même, on est tout un monde. C'est le microcosme. C'est pour ça que chaque jardin dit le monde. Chaque jardin est une philosophie. Chaque jardin est un livre. C'est pour ça, vous comprenez, qu'on voit ça. C'est pour ça que, pour connaître l'eau, il faut toutes ces disciplines. Il faut des ingénieurs, des hydrologues, mais il faut des historiens des religions, il faut des juristes, il faut des économistes, il faut des gens, il faut des militaires.
Ouais. Et il faut des diplomates aussi, Eric Orsenna.
Et des militaires.
Et des
pareils.
Parce que si on revient à notre histoire du Nil, où vous nous avez dit, voilà, il y a une source qui part de l'Éthiopie, une autre source qui part du Soudan, et tout ça après se rejoint pour le Nil qui traverse l'Égypte. On a donc un fleuve avec trois pays qui se disputent cette ressource indispensable. Et entre l'Égypte et l'Éthiopie, ça va mal.
Alors, il se trouve que j'ai l'honneur de donner des conférences à l'école de guerre.
Ouais.
Et j'ouvre toujours mes conférences sur la géopolitique des fleuves à l'école de guerre sur ce cas-là. Pourquoi ? Il y a un barrage qui s'appelle le barrage Renaissance, qui se trouve en Éthiopie, juste avant la frontière du Soudan. Pourquoi ? Parce que l'Éthiopie, on n'a jamais, l'Égypte lui a jamais autorisé à prélever plus de 10 à 15% de l'eau, alors que c'est elle, la source principale du Nil. Elle en a eu marre, sans rien demander à personne, elle a construit ce barrage qui est absolument central pour le Soudan et encore plus pour l'Égypte.
Qui est gigantesque, hein, qui fait partie des 10 plus grands barrages du monde.
Gigantesque. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont en train de négocier sur le rythme d'ouverture des vannes du barrage, parce que l'Égypte en a un besoin vital, mais l'Éthiopie aussi. Et la question qui se pose en géopolitique, c'est que si l'Égypte a en gros 100 millions d'habitants, l'Éthiopie en a plus, 105 à 110 millions. Et s'il venait la mauvaise idée à l'Égypte de détruire le barrage, en bombardant le barrage, eh bien, ils attaqueraient qui ? Un des principaux alliés de la Chine, parce que l'Éthiopie est un des lieux de délocalisation de la Chine, des industries chinoises. Pourquoi ? Parce que Les salaires ont commencé à monter en Chine, 300, 350 euros par mois. C'est pas grand-chose pour nous, mais pour eux, c'est déjà un petit peu. Et alors que en Éthiopie, c'est 50 ou 60 euros par mois. Donc, dans le domaine du textile, même des automobiles, même de la chimie, il y a énormément d'entreprises chinoises. Donc, vous voyez que tout est lié.
Donc, vous nous expliquez pourquoi l'Égypte hésite à deux fois à bombarder le barrage de l'Éthiopie, parce que c'est bombarder les Chinois.
Ben, exactement. Donc, vous voyez ce mécanisme-là. Donc, c'est-à-dire que tout ça est encore une fois lié. Donc on vous dit, moi je sais, on m'a sans arrêt attaqué, touche à tout, machin, etc. C'est la vie qui touche à tout.
Ah oui, ah bah là tout est lié, hein. on y revient. Et vous commenciez à nous l'expliquer en début d'émission en nous disant, mais finalement la plupart des grands fleuves du monde prennent leur source au Tibet, donc autant dire en Chine. Donc ça veut dire que la Chine a la main mise sur l'eau qui irrigue à peu près la moitié de l'humanité.
Alors, je vais vous donner un exemple en ce moment. La Chine est en train de... Deux exemples. Le premier exemple, la Chine est en train de construire le barrage le plus puissant du monde, puisqu'il sera trois fois le barrage des Trois Gorges, qui jusqu'à présent était le plus important, sur le Yangtze. Trois fois. Sur le haut moyen Brahmapoutre. Conséquence, moindre débit pour les pays en aval, c'est-à-dire l'extrême nord-est de l'Inde et surtout le Bangladesh. Et quand j'ai été à Calcutta pour l'Institut Pasteur, puisque j'ai l'honneur d'être ambassadeur de l'Institut Pasteur, je voulais savoir ce que c'est qu'une épidémie, concrètement ce que c'est qu'une épidémie de choléra. Donc ils me disent, puisque vous allez au Bangladesh juste après, vous leur dites qu'on n'en peut plus de l'immigration. Donc je vais au Bangladesh, je leur dis, écoutez, vous avez vu Calcutta, ils sont pas riches, ils n'en peuvent plus d'immigration. Alors ils me disent, avec des noms d'oiseaux, si les Indiens n'avaient pas construit un barrage sur le Gange, juste avant nos frontières, on ne serait pas là. Pourquoi ? Parce que le barrage a diminué le débit d'eau douce, qui permettait de lutter contre la montée de l'eau salée du golfe du Bengale.
Oui.
Donc nous sommes envahis par la mer... Donc nos rizières sont dévastées.
Là, on a le cas des deltas, parce que les deltas sont des zones très habitées, avec là, dans le cas du Bangladesh, alors c'est le Brahmapoutre et le Gange qui arrivent, et on a des terres qui sont en train d'être soit inondées, soit détruites, justement parce qu'on change le débit du fleuve.
Alors, un, parce qu'on a multiplié les barrages en amont, donc moins de débit d'eau douce pour éviter la montée des eaux salées. Deux, on a détruit les barrières naturelles qui sont les mangroves, c'est là où il y avait les tigres et tout ça, etc. Et trois, on a creusé, parce que, évidemment, c'est des zones de formidable végétation, donc de carbone, donc du gaz, du pétrole. Donc, mais cette question du delta est passionnante, parce qu'on est en plein dans des contradictions. Et nous, dans notre petit delta qui s'appelle la Camargue, qui est un lieu sublime que j'ai appris à connaître, puisque, comme je vous dis, je travaille beaucoup avec la Compagnie nationale du Rhône, avec le Rhône, comment préserver tout ça. On a aussi nos contradictions.
Ouais.
Parce qu'il y a des gens magnifiques à la Tour du Valat qui essayent de sauver la biodiversité. Et puis, il y a des gens aussi qui sont des éleveurs, qui disent qu'est-ce qu'on fait, notamment des éleveurs de taureaux. Mmh. Et puis, il y a des gens qui sont des riziculteurs, qui ont des besoins. Et puis, il y a les salins du Midi. Et donc, j'adore les contradictions. Je supporte pas de dire c'est comme ça. C'est pour ça qu'avec Julien Normandie, on a fait le livre qui s'appelle Nourrir sans dévaster.
Vous étiez sur le Rhône, vous nous parlez de notre petit delta à nous, qui est effectivement très beau, la Camargue. Si on monte à la source du Rhône, ben on arrive en Suisse. C'est-à-dire que nous aussi, on partage nos fleuves avec des pays limitrophes. Pour le moment, ça se passe bien, mais on se dit... En plus, le Rhône, avant d'arriver chez nous, passe par le lac Léman. Si un jour la Suisse a besoin que le niveau de son lac soit un peu plus haut et décide de nous couper les vannes, on est tributaire du bon vouloir suisse.
On est tributaire du bon vouloir, mais la Suisse est elle-même tributaire de l'évolution du climat.
Eh oui.
Parce que le Rhône vient principalement du glacier de la Fourca, qui est en train de... au Saint-Gothard, qui est en train de s'assécher comme un peu partout, parce que ce sont des glaciers assez bas.
Ouais.
Puisqu'ils sont juste à 3000 mètres. Donc, première chose. Donc, il y a un élément très intéressant, c'est qu'on peut imaginer qu'il y ait moins d'apport du Rhône, et dans le Rhône, plus d'apport de la Saône. Donc, à quel moment on va changer de nom ?
Ah !
C'est intéressant.
Eh oui.
C'est pas du transgenre, en tout cas, c'est la géographie. Donc, comment est-ce qu'on fait ce genre de mécanisme ? Mais il y a un autre élément dont il faut bien se rendre compte, c'est que même s'il y a un débit semblable sur l'année, ça veut rien dire. Parce qu'à quel moment ça tombe ? Vous voyez, c'est le piège de la moyenne. Si vous avez énormément de pluie l'hiver, à quoi ça sert ? Si vous n'avez pas de pluie au moment du printemps, où les plantes ont le plus besoin d'eau. Comprenez ? C'est pour ça qu'il faut expliquer ça. Ouais. On a besoin tellement de savoir. Ouais. C'est le savoir et la vie des fleuves.
Ouais. On va continuer à s'intéresser à la santé de nos fleuves en France dans la dernière partie de cette émission. Suite et fin de notre discussion au fil des fleuves du monde avec vous, Éric Orsenna, dans un instant.
Je sens, j'ai trouvé. Où sont les larmes cachées? Dans l'eau noire, j'irai me baigner.
Dans l'eau noire, j'irai me baigner.
Nas águas escuras eu mergulharei.
C'était Mira qui chantait « Où vont les larmes ?» sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Et merci à Djoubaka pour la programmation musicale de cette émission.
Voilà, donc tu vois, là, on longe la grève. Tu vois, la petite grève de sable. Et hop, je te fais passer le contre-courant.
Alors, on était au milieu du fleuve il y a quelques instants. Et d'un seul coup, toc, voilà, c'est le silence. On est dans un petit bras avec peu de profondeur, j'imagine.
Il n'y a rien, là. Il y a 30 cm, 40 cm, 40 cm. Des endroits en France, sortis des grands espaces, des Alpes et des Pyrénées, où tu as une quiétude comme ça, avec un bassin de population hyper, hyper réduit. On est seul au monde, il n'y a pas un pêcheur. T'as vu, il n'y a personne. Depuis qu'on est parti, on a entendu le train parce qu'on est au bord du fleuve. On a entendu quelques voitures et maintenant qu'on est un peu paumé. Bon, certes, on est au mois d'octobre, mais je t'emmène là au 15 août. Il n'y aurait pas plus de monde un 15 août. Et c'est ça la chance. Et c'est ça qu'il faut préserver à tout prix, quoi. Là, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas.
Un castor.
Ouais, regarde bien. Alors, tu vois à quoi tu le reconnais ? Bouge pas. Tu bouges pas du tout une oreille, tu bouges pas du tout la tête. Hein. Il va aller se réfugier, on va essayer de pas trop le cintrer pour pas lui faire peur. Regarde, tu ne vois pas la queue, tu vois, tu ne vois pas le cul. Si, c'est un jeune ragondin. Regarde, tu le vois les fesses. Tu vois les fesses ? Ouais. Voilà, donc c'est un ragondin.
Il va vite, hein ?
Ouais. Non ?
Extrait d'un reportage de Stéphane Combe en canoë-kayak sur la Loire, diffusé sur la RTS. Ça doit vous parler, Éric Orsenna, parce que vous adorez faire du canoë-kayak pour les fleuves.
Ah, moi, j'adore naviguer, parce qu'on est dedans.
Ouais.
On est dedans. Comme je navigue beaucoup aussi sur un bateau sur la mer, mais des bateaux petits, comme ça, ouais. On a les culs dans l'eau.
Mais attention, pas en mode pépère, le canoë-kayak, parce que vous avez montré une petite vidéo sur votre portable. Vous êtes sur la Durance, avec le champion du monde, un champion du monde de kayak, Yves Masson, et ça y va, hein,
ah bah, évidemment, ça y va, bah, on y va comme ça, moi j'ai l'habitude, donc j'ai un peu l'équilibre et tout ça, on est en K2, c'est-à-dire il est derrière,
ouais.
Et puis c'est lui qui domine un peu, mais on va dans des endroits complètement déments, parce que là, c'est intime, on est dedans, vous comprenez?
Ouais, ouais.
On est dedans, c'est comme quand j'étais avec, en Antarctique avec Isabelle Autissier, c'était 2 mois et c'était un bateau de 15 mètres, donc ouais. On est dedans, quoi. Il ne faut pas avoir 18 trucs, être dans un Sofitel flottant, quoi.
Ouais, ah bah, c'est un vrai aventurier, notre académicien Éric Orsenna.
Bah, un vivant.
Ouais, un vivant. Allez, est-ce qu'ils sont encore vivants et pour combien de temps nos fleuves à nous? Vous nous avez dit qu'hein, le Rhône, voilà, le débit est plus irrégulier.
Oui, comment mais alors, nos fleuves il est, pour l'instant, il va baisser un peu, mais globalement, ça va aller à peu près. Parce qu'il y a plusieurs éléments. Parce qu'il y a. Mais ça peut être violent en même temps. Vous voyez, c'est ça, quand il y a moins de régularité, il y a des épisodes climatiques. Parce que quand vous avez une température de la Méditerranée qui est très très haute, ça monte en vapeur. Poussé par le vent du sud, ça rencontre les reliefs du massif central, plus des mécanismes de goutte froide, donc il y a des épisodes extrêmement violents avec des inondations terribles. Ce qui se passe en ce moment, c'est que, on pourrait résumer, les déserts avancent et les villes se noient.
Ouais.
C'est un peu ça l'affaire.
Elle est terrible cette phrase.
Donc, oui, mais c'est la réalité, c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Donc, voilà les choses. Alors si vous avez ce fleuve-là, bon, il tient à peu près, la Loire tient plutôt. Plutôt avec des grands changements climatiques. Et on travaille à une BD avec Simon Hureau qui habite Langeais, Éric Servat qui est à Montpellier. On travaille là-dessus. Et la Loire pose une question très intéressante qu'on appelle le Parlement de la Loire.
Ouais.
C'est une question qui a été tranchée en Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner une personnalité juridique aux éléments de la nature? Donc c'est une question, moi, qui m'intéresse. Je pose des vrais problèmes en tant que l'ancien conseiller d'État que je suis.
C'est symbolique ou ça aurait un vrai intérêt pour les protéger?
Vous voyez qu'on peut attaquer maintenant un État parce qu'il n'est pas suffisamment actif dans le contrôle du climat. Simplement, la question posée, c'est essentiel parce que ça rassemble tous les gens qui alertent et qui sont pour le respect. Vous voyez qu'on ne parle pas d'eau là, on parle du fleuve, on parle d'un être vivant, on ne parle pas d'une matière. Donc on dit, plus je l'aime, plus je vais le protéger.
La Garonne, comment va la Garonne?
La Garonne va mal. La Garonne va mal parce que la Garonne vient évidemment des glaciers qui sont des Pyrénées. Les Pyrénées, ça vient, c'est bas. Il y a les vents chauds qui viennent de la Méditerranée. Donc, l'avenir de la Méditerranée, l'avenir de la Garonne est assez sombre. D'autant plus qu'il y a eu énormément d'urbanisation. C'est ça aussi l'affaire. Énormément d'urbanisation. Et puis, il y a eu des cultures qui ne sont pas forcément les plus adaptées.
Ouais. Et pour la Seine, en deux mots, pour la Seine
ça va plutôt. Et on voit à quel point il faut la gérer parce qu'on peut avoir aussi encore des inondations comme en 1910.
Ouais.
Donc un fleuve, c'est une bête sauvage aussi. Hein.
Oui, c'est ça. Ça se dompte, mais ça se laisse aussi un peu tranquille. Ça se laisse vivre. Merci Éric Orsenna. En septembre prochain, paraîtra Adopte ta rivière aux éditions L'Iconoclaste, un conte au service d'un projet pédagogique. Vous racontez comment vous avez accompagné une classe de CM2 pendant un an à la découverte de ce tout petit fleuve dont on parlait en introduction, le Trieux. Je signale également Ces fleuves qui coulent en nous aux éditions Julliard et puis plus anciennement mais toujours disponible La Terre à Soif aux éditions Fayard où vous faites le portrait de 33 fleuves. Un grand merci à vous d'être passé par notre bivouac, Éric.
Vous savez, j'ai appris de ma vieille vie que les seuls vrais merci sont réciproques.
Bah alors celui-là l'est dans tous les sens. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Très bon week-end à toutes et à tous et à lundi pour de nouvelles aventures.